Et nous sommes en compagnie de Bruno pour commencer l'émission Écriture dessinée en direct depuis les studios de Radio Escapade. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine. Alors aujourd'hui on va parler de Tintin parce que vient de paraître une édition des Bijoux de la Castafiore différente puisque c'est celle qui était parue dans le journal Tintin. Alors les Bijoux de la Castafiore sont parus page par page dans le journal Tintin du 4 juillet 61 au 4 septembre 62. Donc vous imaginez un lecteur de l'époque qui en 61, le 4 juillet, démarre les aventures de Tintin et les Bijoux de la Castafiore, il va lui falloir attendre 14 mois pour savoir comment se termine l'histoire. C'est une situation tout simplement impossible aujourd'hui. Cette édition du journal Tintin va comporter un très grand nombre de différences, notamment parce que le journal avait un papier un peu rustre et l'impression n'était pas des meilleures. Et puis il y a beaucoup de différences au moment du passage en album. Nous serons avec Dominique Marie, qui est responsable des archives Hergé, qui a coordonné l'édition de ces Bijoux de la Castafiore, version journal Tintin. Il sera en direct avec nous aux alentours de 14h15 pour nous guider dans cette édition particulière et dans les archives Hergé. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous l'avez entendu, c'est Antoine qui est en régie et la programmation musicale va tourner autour de la musique qu'il y avait dans Tintin. On entendra d'abord un extrait de La Pivoleuse qui a inspiré Hergé pour écrire son histoire et puis le fameux air des bijoux interprété façon Castafiore et puis dans une façon plus... on va dire politiquement correcte, mais tout à fait étonnante. Ça sera le troisième morceau de cette émission. Alors, je voudrais commencer par une brève. C'est la réédition chez Duno Graphique de Moi dyslexique de Christopher Boyd. On l'avait eu en entretien au moment de la sortie de son livre qui avait été le fruit d'un financement participatif. Et dans ce livre, eh bien, à partir de son exemple personnel, il y avait une présentation de ce qu'étaient les troubles 10. Il y a donc un important cahier en fin de livre et cette réédition est tout à fait la bienvenue. Ça a été sorti en septembre et manifestement l'éditeur est en rupture et le livre est réimprimé. Virgule. C'est pas la virgule. Voilà. Ah, c'est toujours du bien. Je vais commencer par quelques livres qui vont donc encadrer ces Bijoux de la Castafiore et je vais commencer par le 24e tome du chat, célèbre personnage de Philippe Gueluc. Alors, le chat, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu d'album, tout simplement, parce qu'il y a eu les sculptures en bronze monumentale qui ont parcouru 6 villes en Europe et qui permettaient de voir à travers 20 statues des images, des représentations de ce qu'était le chat, de son univers. Et donc, il y a eu tout un travail qui était présenté dans le livre précédent, qui était le catalogue de l'exposition, en fait, du chat. Alors, le 40e, eh bien, Le 24e, c'est pour fêter les 40 bougies du chat. Il s'intitule donc « Le chat et les 40 bougies ». Et Philippe Guiluc va reprendre ce qui fait l'essentiel de son humour et de ce qui caractérise le chat. Alors, je vais prendre là où il n'y a pas le chat. Ce sont toutes ces vieilles images que Philippe Guiluc détourne joyeusement et qui donne à plusieurs reprises dans le livre des situations très cocasses et l'humour fonctionne à plein. Comme par exemple ce tigre qui voit surgir un chasseur des fourrés. Il dit « Ah, tiens, un chasseur !» Et le chasseur de répondre « Ouais, un truc à bouffer !» C'est une des parties de l'humour. L'autre partie, c'est les gags en une page où il y a une continuité narrative sur l'ensemble et on sort de ce gag en une image. Dans ce 24e album, il y a une histoire qui se déroule sur plus d'une page et c'est aussi un autre talent de Guiluc. Et puis il y a toutes ces histoires, tous ces dessins, ces gags en un dessin qui sont aussi un des axes puissants de l'humour d'Icha et qu'on retrouve dans différents supports. Alors il y a quelques-uns, je vais vous en servir un parce qu'il me plaît beaucoup. Il faut à peu près une girafe qui vomit, mais à peu près autant de temps qu'un python pour chier. C'est simple, ça frôle le bon goût, mais c'est puissant. Et le chat qui vous dit ça avec son air implacide, c'est assez remarquable. Alors il y a dans le trait de Guiluc ce côté très posé, qui est une sorte de trait classique, fondamental, qui a structuré la bande dessinée en Belgique, et notamment grâce à Hergé, qui a été un des grands créateurs, et son trait est devenu la ligne claire. Donc il y a, sans forcément appeler le dessin de Guiluc ligne claire, parce qu'on sent à un certain moment un léger tremblement, il y a cette qualité de lisibilité constante, et le fait que les expressions du chat soient ramassées, soient dans une amplitude réduite, eh bien, ça fonctionne d'autant mieux. Le chat et les 40 bougies, 64 pages, 16 €, c'est le tome 24 et c'est publié par les éditions Casterman. Nouvelle virgule. Alors cette deuxième virgule qui remplace la répétition que je faisais habituellement de l'extrait de Vincent Malone, eh bien c'est le générique des Shadok et ça mérite, il n'y a pas de problème, ça mérite. Deuxième titre qui est en lien direct avec les bijoux de la Castafiore, c'est le livre de Benoît Peters qui était sorti en 1984, réédité en 2015, qui s'intitule « Les bijoux ravis ». Avec ce livre, Benoît Peters fait une lecture plus contemporaine de la bande dessinée d'Hergé et montre toutes les caractéristiques, la structure, les éléments cachés, les liens qu'il y a entre les différents éléments du récit. Les bijoux de la Castafiore, c'est un Tintin qui est sédentaire puisqu'il se passe à Moulinsart. Et après son retour du Tibet, eh bien, c'est plutôt une séquence plus sereine. Mais en fait, il y a la Castafiore et elle va débarquer. Et Haddock va, du début à la fin du livre, être abasourdi. Et ce qui est important dans cette lecture faite par Benoît Peters, c'est vraiment la qualité de l'analyse. C'est-à-dire qu'il a pris une analyse linéaire, segment par segment, et le terme segment est vraiment approprié. Il isole les éléments narratifs, les séquences narratives, pour montrer comment, dans l'ensemble du livre, il y a des liens avec différents segments d'une partie du livre à une autre, et notamment avec ce qui révèle qui sont les chaînes narratives. Il y a par exemple, dès la première case de l'album, la pivoleuse qui est présente. Alors on ne sait pas qu'elle est voleuse, mais il y a la pie qui est présente dans la première image. Il va y donc y avoir cette chaîne narrative des oiseaux qui va courir tout au long de ce livre. Il y a notamment Coco qui va être aussi un oiseau important dans l'histoire. C'est le perroquet qui va mordre Haddock. On a, avec cette lecture par chaîne narrative, par le commentaire précis du déroulé de l'album, il y a un complément qui est une mise en lien entre les bijoux de la Castafiore et d'autres œuvres d'Hergé ou d'autres œuvres de grands créateurs comme Alfred Hitchcock, Agatha Christie ou Jules Verne. C'est une lecture d'une très grande profondeur qui fera que on ne peut plus lire la bande dessinée de la même façon, on ne va plus apprécier les œuvres de la même manière, parce qu'il y a cette conscience dans l'écriture qui est révélée par cette lecture. La nouvelle édition des Impressions Nouvelles de 2015 va permettre à Benoît Peeters de modifier légèrement son texte pour le rendre encore plus fluide, encore plus lisible, et il y aura quelques compléments qui seront ajoutés dans les descriptions. Le format n'est pas le même, mais c'est en tout cas un ouvrage critique lumineux, essentiel, qui permet vraiment de mieux apprécier la bande dessinée. Comme l'édition de Magic Strip de 1984, l'édition de Bijoux Ravis faite par les Impressions Nouvelles ne contient toujours aucune image, et c'est vraiment dommage que les studios Hergé refusent ainsi ou donnent des prix exorbitants pour les droits d'utilisation des images d'Hergé, alors que la lecture en est considérablement enrichie. Les Bijoux Ravis de Benoît Peeters, publiés par les Impressions Nouvelles, les 288 pages de ce livre sont au prix de 25 euros. Les bijoux de la Castafiore sont parus dans le journal Tintin du 4 juillet 1961 au 4 septembre 1962. C'était une publication, une pré-publication, page par page, donc pendant 14 mois. Une situation de lecture absolument impossible aujourd'hui. La nouvelle édition présentée par les éditions Moulinsart et Casterman permet de découvrir cette version du journal Tintin qui diffère à plusieurs titres de celle de l'album paru en 1963. Et il fallait encore donc au lecteur d'attendre quelques mois supplémentaires pour avoir l'album lui-même. Il y a par exemple déjà sur la mise en couleur des différences où les fonds à plusieurs reprises, la veste du capitaine Haddock, il va y avoir un grand nombre de changements qui va donner une impression à mon avis plus lumineuse dans cette version actuelle qui est donc mise en album à partir du journal. Parce que la présentation dans le journal n'était pas aussi de qualité parce que l'impression n'était pas la même, les techniques ont considérablement évolué. Et puis il y a un cahier supplémentaire dans cette édition de la version Tintin, du journal Tintin des bijoux de la Castafiore, qui va permettre d'apprécier la création, le mouvement créatif d'Hergé, où il va y avoir les premiers dessins jetés, où on visualise déjà quelques scènes, mais c'est vraiment très rapide comme exécution, des planches crayonnées plus abouties, avec dans les marges les recherches graphiques d'Hergé, des documents qui ont permis à Hergé à construire les scènes, les éléments supplémentaires publiés par le journal pour annoncer la parution des bijoux de la Castafiore. Un cahier supplémentaire très important, coordonné par Dominique Marie, qui est responsable des archives Hergé, et il va nous guider dans cette nouvelle version, mais ancienne, première version des bijoux de la Castafiore, et également dans les archives Hergé. Bonjour Dominique Maric.
Bonjour Didier, je suis déjà extrêmement séduit par tout ce que vous avez raconté. Je ne dirais pas que vous avez dit l'essentiel, mais en tout cas vous avez extrêmement bien résumé, je dirais, toute la jeunesse, tout ce qui a précédé un petit peu la sortie en album. Et c'est vrai que d'emblée, je me réjouis de voir ces publications parce que entre effectivement la version journal Tintin, qu'il s'agisse de la France ou de la Belgique, et la version album, il y a une série de changements, de différences, de repentir, enfin bref, de choses qui montrent que décidément Hergé était souvent extrêmement exigeant avec lui-même, comme il était avec les autres. Et donc la version, effectivement, du journal Tintin, c'est en tout cas le premier jet imprimé, et après il y aura effectivement autre chose qui va suivre.
Alors, Dominique Marie, qu'est-ce qu'Hergé parlait de ses repentirs, parlait de ses volontés de modification qui, au départ, paraissent pas forcément très importantes, mais là, on a vraiment un changement de lumière, même, dans le livre lui-même.
Bah écoutez, en fait, depuis le Temple du Soleil, donc depuis le début des parutions, dans le journal Tintin, il y a eu très souvent toute une série de changements, d'options différentes, qui étaient liées soit au fait qu'Hergé lui-même, comme je vous l'ai dit, était quelqu'un de très exigeant, de très difficile, à raison certainement, parce qu'il voulait toujours la perfection absolue, et que par ailleurs, il y avait autour de lui des collaborateurs, et n'oublions pas des lecteurs, donc il y avait un courrier de lecteurs qui faisait en sorte que, de temps en temps, malgré toute sa vigilance et malgré tout ce qu'il faisait pour que ce soit le plus proche de la perfection, il y avait des erreurs de coloriage ou de position d'un objet ou l'autre, ou d'atmosphère, ou de dialogue qui n'était pas tout à fait conforme à ce qu'il voulait. Et donc, effectivement, il y a un ensemble de choses qui se retrouvent notamment dans les courriers d'Hergé et qui prouvent que, d'une part, il y a le maître du jeu, c'est-à-dire Hergé lui-même qui est vraiment au centre de la création, et puis il y a autour de lui beaucoup de collaborateurs, de gens bienveillants et de lecteurs qui, de temps en temps, lui font remarquer que telle ou telle chose n'est pas tout à fait appropriée. Et c'est tout le bonheur, évidemment, des amateurs de Tintin, et je dirais même d'un grand public en général, c'est de trouver, de comparer les versions et de se rendre compte à quel point entre la première publication en revue, donc dans le magazine Tintin, et la publication en album, il pouvait y avoir effectivement une série de modifications.
Alors, il y a des éléments d'information que nous ne connaissons, que nous ne connaissions pas, notamment par exemple le lettrage. En fait, le lettrage est réalisé par quelqu'un en dehors des studios, ou est-ce que il était membre des studios à part entière?
Mais si vous voulez, donc quand on relit les registres du personnel des studios RG, il y avait l'équipe de base, on va dire, il y avait les coloristes, il y avait évidemment les dessinateurs qui entouraient RG, de Bob Demort à Jacques Martin, en passant par Jules Leloup, Michel Demarais et d'autres encore. Et puis il y avait des collaborateurs extérieurs dont le métier, très pointu, comme le lettrage, faisait en sorte que l'ensemble était cohérent. Mais donc, pour revenir à votre question, ces gens ne faisaient pas vraiment partie de l'équipe des studios, mais ils étaient évidemment très très proches d'Hergé et de son équipe. Et autant, je dirais au début, avant la création des studios, ben, c'est Hergé lui-même qui faisait le lettrage, parce que n'oublions pas que Hergé, qui est un autodidacte, a eu, cette science un peu infuse de pouvoir lui-même dessiner très bien d'ailleurs les lettres de chaque bulle, de chaque phylactère de ses albums. Mais je dirais que surtout à partir des années 50, dépassé par le succès et l'internationalisation de son œuvre, ben, il va commencer à confier ça à des personnes extérieures. Alors ici, effectivement, on révèle le nom de la personne qui fait le lettrage. Il y en a eu un autre avant. Donc, je rappelle que tous ces renseignements se trouvent dans le cahier critique qui accompagne cette nouvelle version des bijoux. Mais donc, oui, je le souligne, c'était quelqu'un d'extérieur qui faisait le boulot. Ici, donc, un certain Arsène Lemay. C'est évidemment des spécialistes de ce type de travaux. Et effectivement, c'est pas banal du tout. Je dirais que autant Hergé est la vedette absolue, autant ceux qui l'entouraient, et notamment les coloristes, avaient un rôle assez stratégique dans la sorte de perfection des albums et du magazine Tintin. Donc voilà, il y a ce lettrage qui est très beau, qui est très... On parle même d'un alphabet Remy, donc d'un alphabet Georges Remy, qu'il a créé de toutes pièces et qui a d'ailleurs été réutilisé par d'autres dessinateurs par la suite. Et donc c'est vraiment Hergé qui est à la base de tout ça, donc aussi bien les scénarios, les textes et donc le dessin forcément, mais par la suite il a sous-traité en quelque sorte ce travail parce qu'il était tout simplement débordé, souvent même... proche du burn-out, comme on dit maintenant. Et donc, il y a eu ce spécialiste du travail de lettrage qui était tout à fait fabuleux quand on voit effectivement à chaque case la régularité de ce trait, et d'autant plus que, je le souligne, à l'époque, il n'y a pas de machine, il n'y a pas toute une série de perfectionnements technologiques qui permettent de faire ça. Donc, c'est vraiment un travail d'artisanat, c'est vraiment du travail qui se fait à la main, et donc c'est d'autant plus remarquable.
Alors, Dominique Maric, comment s'est mise en place cette édition et ce cahier de présentation?
Ben, je crois qu'il y a... Bon, voilà, moi je travaille au studio RG depuis 26 ans, je dirais, globalement, et ce qui est remarquable, et je crois qu'on peut être très fier de ça, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de dessinateurs, d'artistes qui ont la possibilité comme ça d'avoir, au-delà de leur propre existence, une fondation qui a géré l'ensemble, non seulement des dessins, mais des textes, des lettres, enfin de toute une série de documents qui font vraiment partie du patrimoine. Et le premier objectif, pour aller assez vite, c'était d'abord évidemment la création d'un musée qui allait montrer toutes ces splendeurs au grand public, parce que autant beaucoup de gens, le grand public, les gens connaissent les albums, bien sûr la chose imprimée, mais derrière ces albums se cachent évidemment, je ne dirais pas des centaines, mais des milliers de documents inédits. Et donc, par rapport évidemment à cette édition particulière des bijoux de Castafiore, c'est le fait qu'on est évidemment très gâté ici au sein des studios RG, puisque nous possédons quasi l'essentiel de tout ce qui a fait la genèse de cet album comme les autres, à savoir bien sûr les planches originales, mais également les bleus de coloriage, les lettrages, les croquis d'attitude, La documentation, très importante chez Hergé, la documentation, c'était d'ailleurs mon premier job quand je suis arrivé ici à la fin des années 80, c'était de classer la documentation d'Hergé. On parle ici de 20 000 feuillets de documentation. Et donc voilà, avec tout ce matériel extraordinaire, il s'agit de faire quelque chose. Alors bien sûr, un musée ou des expositions temporaires, c'est très bien, mais si régulièrement on peut publier des ouvrages qui montrent qui offre au grand public et aux tintinophiles tout ce matériau extraordinaire, comme je le disais, les crayonnés, les projets, les avant-projets, les croquis d'attitude, etc. C'est un vrai bonheur. Donc c'est vrai que cette édition-ci n'est pas tout à fait la même, forcément, que l'édition traditionnelle des Bijoux de Castafiore, à commencer notamment par la couverture dont on va peut-être également parler.
Ben oui, parce que justement, alors la couverture, c'est la page de garde, la page de titre de l'album où Tintin n'est pas présent. On a la Castafiore et Haddock.
Oui, alors voilà, évidemment, je n'étais pas là au moment où tout ça s'est négocié. Je sais qu'Hergé, évidemment, était le grand maître de son œuvre, mais forcément, il avait un éditeur, Casterman, éditeur historique, et il y avait toujours, évidemment, une série de négociations qui jouaient, dans le sens que la couverture que lui avait prévue était évidemment assez significative, on en parlera également, mais qu'elle ne mettait pas, c'est le moins qu'on puisse dire, Tintin en évidence. Or, il faut être clair, il n'y a qu'à voir, même encore maintenant, quand on publie un livre de critique ou d'intérêt quelconque sur Hergé, sur son œuvre, ben, dès le moment où il y a le mot Tintin, je dirais, dans le jeu, et dès le mot Hergé, ben, je dirais que commercialement, ça marche. Alors ici, pour les bijoux de la Castafiore, ben, on a cherché évidemment une couverture plus commerciale, entre guillemets, puisque, remarquable d'ailleurs, puisqu'à l'avant-plan, il y a Tintin qui se tourne vers nous, vers le public, qui nous demande de faire silence, et puis il y a cet halo de lumière créé par les projecteurs, où on voit la Castafiore, donc le titre, c'est bien les bijoux de la Castafiore, mais Tintin est à l'avant-plan. Alors que la couverture, je dirais, actuelle donc, de cette édition spéciale, ben là, on a donné, on a mis en lumière, si vous voulez, donc une image secondaire qui a été utilisée, certes, dans l'album, mais qui, on voit effectivement la Castafiore qui pousse à Haddock en chaise roulante. Bon, c'est évidemment un clin d'œil magnifique, c'est sympathique, mais il faut le reconnaître, c'était peut-être pas très vendable, très commercial, et par ailleurs, ça donnait quand même une connotation un petit peu négative à la chose, puisqu'on voyait effectivement Haddock infirme, qui était poussé par la Castafiore dans une chaise roulante, donc tout ça n'était peut-être pas très, très heureux. Donc voilà, si je peux me permettre, il y a souvent eu d'ailleurs des conflits importants ou moyens entre Hergé et son éditeur, dans la mesure où Hergé avait parfois des idées même un peu d'avant-garde, on va dire, mais il devait obéir aussi aux impératifs, on va dire, du commerce, du merchandising, du marketing, pour utiliser des mots un peu récents, et donc se plier quand même aux volontés de l'éditeur. Le plus bel exemple, peut-être, c'est la couverture de Tintin au Tibet, qui est quand même l'album qui précède les bijoux, où là, Hergé voulait une couverture toute blanche, et c'était notamment une référence à un double album des Beatles à l'époque, une espèce de pureté absolue, comme ça, incarnée par le blanc, et il a dû quand même accepter le fait que son éditeur voulait un peu plus de couleurs, si on peut dire, sur cette couverture, et ajouter quand même des reliefs de montagne, des traces du Yeti, etc. Donc voilà, pour plusieurs albums, il y a eu chaque fois des négociations, où parfois Hergé se rendait à l'évidence, et d'autres cas où il imposait sa volonté. Mais en tout cas, pour cette couverture-ci, il est clair que la découverte, c'est de voir effectivement ce dessin secondaire, entre guillemets, triomphant en couverture, avec quand même un Haddock plutôt mal en point.
Dominique Maric, je vous propose une pause musicale. Alors, j'ai choisi une version de l'ère des bijoux de la Castafiore qui était parue en 1963 sur disque vinyle, édité par Marie Mélodie. Et c'est une version assez représentative de l'esprit de l'album. À tout de suite et on se retrouve donc dans quelques minutes.
Avec grand plaisir.
Thank you. vous croyez qu'il est vraiment venu tout seul de son perchoir?
Moi, naturellement, c'est le petit cocossier. Allez, allez, petite bête. Allez,
bla bla.
Silence, on reprend. Silence. Attention, maintenant.
Bianca, deuxième fois.
Partez.
Voilà cette version de 63. Qu'en pensez-vous, Dominique Maric, de 63? C'était au moment où il y a eu toute une série de disques tirés des œuvres de Tintin. Est-ce que Hergé pouvait se retrouver dans cette version?
Écoutez, c'est une excellente question, comme on dit. En fait, c'est vrai qu'Hergé, je pense, enfin, d'après tout ce que je peux savoir à ce sujet-là, était souvent un petit peu amusé et en même temps un petit peu interloqué par ces déclinaisons, soit sous forme de disques, soit sous forme de pièces de théâtre, voire de films déjà à l'époque. En fait, les adaptations sont toujours d'une certaine manière des trahisons. Mais globalement, je trouve qu'elles ont apporté quand même quelque chose. Chaque fois, forcément, dès le moment où il y a eu des adaptations comme celle dont vous parlez, ça amenait parfois un autre public. Et comme c'est souvent le cas, on le voit encore actuellement, dès le moment où, par exemple, un film, une biographie sort sur une personne célèbre, ça permet aux gens de retourner vers l'œuvre proprement dite. Et donc, autrement dit, si des gens découvraient les bijoux de la Castafiore par le 33 tours sorti chez Mary Melody dans les années 60, ça les amenait peut-être tout simplement à acheter l'album par la suite. Et donc, il y a toujours eu ce chassé-croisé entre l'œuvre traditionnelle, c'est-à-dire c'est vraiment la base de tout, c'est la Bible, si on peut dire, et alors les publications, toute une série de déclinaisons sous certaines formes. En tout cas, je pense que ces adaptations en général n'étaient pas mal faites du tout. Ça donnait évidemment de la vie à ces personnages. Bien entendu, autre paradoxe de l'œuvre d'Hergé, c'est que finalement, une bande dessinée, c'est plat, c'est pas sonore, forcément. C'est une feuille de papier, c'est de l'encre, c'est de la gouache, c'est du crayon, c'est tout ce que vous voulez, mais ça ne parle pas. Mais étonnamment, paradoxalement, souvent les adaptations étaient considérées par les auditeurs comme des trahisons, dans la mesure où c'est toujours cette phrase célèbre d'un gamin qui découvrait un dessin animé adapté des Aventures de Tintin, et qui avait dit ce n'est pas la même voix que dans les albums. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, ça veut dire que la force créative et l'ensemble de l'œuvre d'Hergé a créé comme ça toute une série d'images sonores, visuelles et autres dans nos esprits. Et dès le moment où on traduit ça dans d'autres médias, forcément, c'est souvent un peu décalé. Mais en tout cas, comme dirait l'autre, ça a eu le mérite d'exister. Et encore une fois, tous ces produits dérivés, Hergé n'est absolument pas contre leur sortie. Il contrôlait tout ça, d'ailleurs, il faut être bien clair, notamment au verso de ses albums, si je ne m'abuse. Il avait réalisé également un dessin très particulier qui accompagnait donc les albums. Donc tout ça était plus ou moins contrôlé par le créateur de l'œuvre, mais forcément, tous ces produits dérivés n'étaient pas l'œuvre elle-même. Mais ben voilà, elles ont accompagné en quelque sorte ce fabuleux trajet. Et ce n'est pas les collectionneurs tintinophiles et autres qui me démentiront, puisque notamment ce créneau de collectionner les disques, les 33 tours et autres, c'est une très belle collection parce qu'il y a eu des tas de variantes, des ouvrages assez savants qui sont sortis sur toutes les différences en fonction des différentes versions. Et on se rend compte aussi que souvent de grands comédiens, notamment français, avaient prêté leur voix à Tintin, au Capitaine Haddock, etc., etc. Donc vous voyez, il y a eu comme ça, il y a l'œuvre elle-même, ça c'est forcément c'est je dirais qu'il faut toujours revenir aux albums, ça c'est la base de tout, mais il y a tout ce monde, tout ce monde périphérique qui accompagne l'œuvre d'Hergé, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que si on doit faire le compte de tous les produits dérivés qui ont existé, et j'insiste beaucoup, du temps d'Hergé, donc bien avant sa disparition, en 83, c'est énorme. Il y a eu énormément de déclinaisons sous toutes sortes de formes qui prouvent à quel point, très vite, les aventures de Tintin et Milou ont été un succès incroyable et ont donné lieu à tous ces produits dérivés, tous ces objets 3D qui maintenant, hélas ou tant mieux, sont souvent très recherchés, mais se vendent souvent assez cher, il faut le dire.
Alors, Dominique Marie, vous avez évoqué tout à l'heure l'importance de la documentation. Alors, dans les bijoux de la Castafiore, il y a une partie qui est quand même très, très forte, c'est la rencontre de la jeune Romanichel et de cette communauté rome qui s'est installée près d'une décharge. Et donc, comment s'est constituée ce passage, quelle documentation Hergé avait, parce qu'il prend une position opposé à ce qui était couramment exprimé à leur sujet. Et donc, il y a même un engagement du capitaine Haddock qui va les accueillir sur son terrain en bordure de rivière.
Ça, c'est une question en or que vous me posez. C'est vraiment une pêche extraordinaire parce que c'est vrai que Hergé, il a traversé toutes sortes de périodes, il a mûri, il a évolué. Et je dirais que plus il avançait dans son œuvre, plus il avait ce côté ouvert, sensible, humaniste, on va dire. Et là, c'est évidemment lié à quelque chose de très particulier, de très personnel, puisqu'en fait, moi j'habitais la région où Hergé habitait longtemps, entre la fin des années 40 et je dirais jusqu'au début des années 60, dans une région à 30 km de Bruxelles, le Brabant Wallon, qui est une très belle région, avec énormément de forêts très vallonnées, des endroits champêtres, où il a acheté une maison en 49, et donc là il a vécu quelques années absolument fabuleuses, en pleine nature, et Hergé a toujours aimé marcher, c'était pas le marathonien, mais c'était le randonneur, il adorait faire de grandes marches, et un jour, et ça je suis d'autant plus fier d'en parler, c'est que c'était vraiment, on va dire à 500 mètres de chez moi, il y avait dans le coin où j'habitais un campement de Romanichel, de Rome, de Gitans, qui était, je dirais, hélas, relégué à vivre tout près d'un champ d'immondices. À l'époque, il n'y a pas de déchetterie, etc. Et moi, je me souviens très bien de ce campement de Gitans. Et Hergé lui-même y est passé, c'était près d'un endroit qui s'appelait le Bois du Corbeau, donc c'était un lieu dit. Et il était extrêmement choqué de voir dans quel manque d'hygiène ces gens vivaient, comment on les considérait, etc. Il était qu'une de ses coloristes, en fait, hein, qui était assez proche de lui, et il était extrêmement choqué de voir les conditions de vie de ces gens. Et donc, ça a été, je dirais, une des deux thématiques qu'il a développées dans l'histoire, puisque l'autre, c'était lié à une anecdote, enfin, un fait divers plutôt, qu'il avait lu dans Paris Match à propos de bijoux qui avaient été volés à Sophia Loren, donc une autre diva, on va dire. Et donc, cette histoire de Romanichel, tout de suite, l'a frappé, et ça lui a permis d'établir une sorte de connexion, puisque on vole les bijoux à une dame célèbre, à la Castafiore, et il fallait des coupables, évidemment. Et très vite, il a eu cette idée, à contre-courant, si on peut dire, de mettre en lumière qu'on allait forcément soupçonner les Gitans, qui est évidemment pour rien dans cette histoire. Et donc, c'est de cette anecdote personnelle de vie, une tranche de vie quotidienne, donc qu'il a connu. Dès ce moment-là, il a voulu se renseigner parce que, comme toujours, la documentation a une importance extrême pour lui. Donc, il contacte en fait en Belgique l'aumônier des Gitans, donc un ecclésiastique, un curé qui s'appelle le père Rupert. Il le convoque, enfin il l'appelle, il lui envoie toute une série de courriers. Et donc, ce curé va lui envoyer une série de documents sur les Gitans, sur les Roms, etc. Et il va se rendre compte à quel point cette population est méconnue, méprisée, etc. etc. Ce qui est vraiment d'avant-garde, hein, parce que honnêtement, que ce soit ce sujet-là ou d'autres, Hergé a souvent été comme ça un défenseur des minorités. Et donc, effectivement, dans l'album, dès le départ, c'est eux qu'on va soupçonner, alors que, bien entendu, au final, on va percevoir qu'ils n'ont absolument rien à voir là-dedans et que c'est une pie qui a fait le coup, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je dirais que, de manière plus générale, Les Bijoux de Castafio, c'est l'album certainement le plus personnel, le plus intime de tous. Pourquoi ? Parce que les trois quarts des anecdotes et des histoires qui se passent entre les personnages ont rapport avec la vie personnelle et quotidienne d'Hergé. J'en ai d'ailleurs fait un ouvrage il y a quelques années qui s'appelait Hergé côté jardin et qui montre à quel point le quotidien d'Hergé a influencé cet album. Et ça, c'est le côté, je dirais, permanent dans l'œuvre d'Hergé, c'est que soit il s'inspire de choses qui se passent au bout du monde, une actualité brûlante, la guerre du pétrole, la traite des êtres humains, que sais-je, ou alors de fait tout à fait lié à sa propre existence. Et là, vraiment, Les Bijoux de Castafiore, quand vous lisez les courriers d'Hergé et ce qui lui est arrivé personnellement quand il vivait dans cette maison du Brabant-Wallon, ben c'est vraiment la base absolue de cet album qui décidément est totalement atypique et très, très adulte finalement par rapport aux autres histoires.
Dominique Maric, quels sont les trésors qu'il y a encore dans les archives Hergé ? Est-ce qu'il y a un programme éditorial qui est déjà en place ?
Mon cher Bruno, si je peux vous appeler comme ça, c'est extraordinaire. Parce que moi, j'ai cette grande chance, j'étais enseignant au départ, je suis tombé dans tout ça un peu par hasard, et je découvre encore, même au moment où je vous parle, pas plus tard que ce matin, il y a à côté de l'œuvre publiée, de l'œuvre connue, à côté du musée Hergé magnifique à Louvain-la-Neuve, et de tout ce qu'on y montre, des centaines, des milliers de choses qui ont été des projets, des avant-projets, des croquis d'attitude, des dessins rares, etc. Donc, c'est absolument extraordinaire ce qu'il y a encore à découvrir avec cette œuvre. Et ça, c'est absolument... Moi, je reste stupéfait, ébahi par cette mine incroyable. Et je crois qu'on a beaucoup de chance, parce que malheureusement, beaucoup d'artistes, une fois disparus, c'est un peu triste à dire, mais la proche famille se déchire, les héritiers ne sont pas d'accord entre eux, etc. Nous, on a quand même protégé tout ça de manière absolue, je dirais, et c'est ce qui permet que je dirais que tous ceux qui aiment la bande dessinée en général et l'œuvre d'Hergé en particulier vont pouvoir encore se régaler pendant longtemps, parce qu'à côté des albums publiés et d'une série de choses un peu classiques sur l'œuvre, nous avons encore, croyez-moi, énormément de choses à montrer. Et j'espère encore pouvoir découvrir tout ça moi-même au fil des années, parce que j'ai l'impression qu'Hergé est un artiste stakhanoviste absolu qui a comme ça énormément travaillé dans sa vie et qui nous a laissé vraiment, vraiment énormément de joyaux que j'espère pouvoir encore découvrir pendant de longues années.
Alors, il y a en bande dessinée ce principe des reprises des grands personnages. Alors, beaucoup de ces grands héros de l'époque de Tintin, bon, je pense à Spirou, où là, les reprises se sont multipliées. Aux États-Unis, Batman a un très grand nombre de créateurs. Hergé a toujours refusé qu'il y ait une reprise sur son œuvre. Est-ce que vous pensez justement que la cohésion qu'il y a finalement grâce à ce travail à la fois de révélation et d'enrichissement des publications, est-ce qu'elle profite de cette exclusivité d'Hergé sur Tintin, ou est-ce que il y aurait pu y avoir une reprise comme pour d'autres ?
Oui, évidemment, ça c'est la question que moi, en tant qu'amateur de Tintin et d'Hergé, je me pose depuis très longtemps. Moi, je vous dirais simple, je suis né en 1953, donc en 2053, pour mon centenaire, mais bon, je ne pense pas être encore là à ce moment-là, Tintin reviendrait dans le domaine public. Entre-temps, comme vous le dites, il y a eu beaucoup d'expositions, de travaux savants, de livres très intéressants, de publications, de révélations, etc. Ça, c'est une chose. Bon, bien entendu, le dernier album de Tintin, Tintin et Picaros, dernier album terminé, est sorti en 1976. Et voilà. Maintenant, étant au cœur même de ces studios Hergé, je peux vous dire que j'ai souvent rencontré des textes où Hergé le disait haut et clair. Il s'est mis totalement là-dedans. C'était vraiment à la fois parfois une relation d'amour et parfois parfois aussi ils ont de haine par rapport à ce personnage de Tintin. Il y a mis toute sa vie et donc il l'a déclaré à de nombreuses reprises qu'effectivement, il savait très bien que d'autres pourraient éventuellement reprendre son personnage, mais c'était tellement intimement lié à sa personne qu'il ne le désirait pas. Bon, voilà. Après, se posent toutes les questions, à la fois juridiques, morales, légales. Il y a eu beaucoup de reprises de personnages. Moi, je suis assez fan de Blake et Mortimer. Je reconnais que pas mal de reprises ont été plutôt très attrayantes et que je suis très tenté d'acheter comme ça des reprises de tas de personnages. Bah, dans le cas de Tintin, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. En tout cas, on ne peut pas nous accuser de vouloir faire absolument de l'argent avec tout ça parce que, étonnamment, ces reprises souvent se vendent très bien et le nombre d'exemplaires en témoigne. Mais dans le cas d'Hergé, manifestement, ce n'était pas du tout sa volonté. Les ayants droit ont respecté jusqu'à présent cette volonté. Je crois qu'ils continueront à le faire. Moi, je dis que il y a deux écoles. Il y a ceux, effectivement, qui verraient bien Tintin vu par tel ou tel auteur. Mais ce serait autre chose, forcément. Et je dirais que la cohérence de l'œuvre est tellement forte, je ne sais pas si ça ajouterait quelque chose. Voilà, le nouvel Astérix se sort au moment où je vous parle. Ben je m'en réjouis, et tant mieux. Mais voilà, Uderzo et Goscinny ne sont plus là. Donc, on peut en discuter très longtemps. C'est pas pour vous donner une réponse de Normand, mais il y a vraiment deux écoles. Et moi, je vous avoue qu'étant au centre même de toute cette richesse de patrimoine, je me dis que Hergé a encore des choses à montrer, même si ce n'est pas sous la forme de nouveaux albums et de nouvelles déclinaisons qui pourraient être reprises par tel ou tel auteur, si talentueux soit-il, hein, je n'en dis ce qu'on vient pas. Donc voilà, c'est une question qui reste ouverte. Moi, personnellement, je dirais égoïstement, je suis déjà très content de tout ce qui est mis à notre disposition. Après, je dirais bien que l'histoire jugera, mais honnêtement, je pense que jusqu'à présent, la gestion qui a été faite était la bonne et que, honnêtement, je ne pense pas que de nouveaux albums des Aventures de Tintin aura ajouté quelque chose, sinon dans le domaine, on va dire, de la curiosité, de quelque chose d'un petit peu excentrique, d'un peu éloigné de l'œuvre, mais je ne pense pas que ce serait une bonne idée. Le trait d'Hergé est tellement personnel, tellement... Bon, en toute modestie, je reconnais tout de suite quand c'est Hergé qui dessine ou si c'est Bob de Mort ou Jacques Martin. Ben, je connais à fond le trait d'Hergé et je crois qu'il y a tellement il s'est tellement mis là-dedans de façon, je dirais, absolue, que même autant d'années après sa disparition, ce serait un peu moche peut-être de revenir sur ses volontés. Mais voilà, c'est une question qui reste ouverte, évidemment.
Merci beaucoup, Dominique Maric. J'ai rappelé les caractéristiques de cette nouvelle édition, donc des bijoux de la Castafiore, la version du journal Tintin. C'est publié en coédition avec Casterman et les éditions Moulinsart. Je sais plus le prix du livre. C'est 16 euros, c'est ça?
Je vois ici 16,95 €.
Voilà, alors 17 euros. Voilà. On va dire 17 euros.
Voilà.
Merci beaucoup et très bonne continuation au milieu des archives.
Je peux en rajouter un tout petit mot, Bruno?
Bien sûr, bien sûr.
Je trouve que votre émission est vraiment remarquable. Vous faites vraiment un boulot de fond très, très bien, très intéressant. On apprend des choses. C'est pas simplement des résumés comme ça un petit peu rapides des événements. Et puis aussi, quand même, pour le cahier critique qui accompagne ce livre des bijoux, c'est mon excellent collègue passionné Philippe Fontaine qui a rédigé le texte, donc il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Voilà.
Ben, c'est fait. Parfait. Voilà. Ben, merci pour ces retours et ouais. Ben, à très bientôt.
Voilà.
Merci Dominique Maric. Au revoir.
Au revoir.
Est-ce toi, Marguerite? Est-ce toi,
métamorphose. Il me tarde encore d'essayer le bracelet, le collier.
Alors pour les musiques qui ont accompagné cette édition d'écriture dessinée, il y avait d'abord la Gazza Larda, qui est un opéra de Giacomo Rossini, qui était interprété dans le rôle donc de la pivoleuse, dans un des rôles de cette opéra, c'était Teresa Iervellino. La direction était assurée par Riccardo Chailly et ça avait été enregistré à la Scala de Milan. Et puis nous venons d'entendre Elsa Dirsing qui interprétait l'air des bijoux de Gounod. C'était l'orchestre de Montpellier-Occitanie dirigé par Michael Schoenwandt. La semaine prochaine, nous serons avec Zelba à l'occasion de la parution de son livre « Le Grand Incident » qui est une coédition entre Futuropolis et le Louvre Édition. Eh bien, merci Antoine pour cette technique et bonne semaine à tous. Et je vous laisse en compagnie des Radio Escapades. Écriture dessinée.